الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده. إخوة الإيمان، vous convenez avec moi que nous sommes déjà à court de temps. Alors qu'on n'a pas encore parcouru la moitié du hadith. Mais ce que je veux qu'on comprenne aussi par le biais de ce genre d'assises, c'est l'importance de l'apprentissage et l'immense connaissance que renferme les textes de la révélation. Poursuivons. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصوم رمضان. Je suis en train d'expliquer ce que c'est que le jeûne dans son essence. Ya ikhwa, avant de légiférer cette adoration, Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé à une catégorie de personnes particulières en disant Ya ayyuhalladhina amanu, vous qui avez cru. Comme vous t'ai dit que n'atteindra la piété que celui qui commence par le début du verset. Il faut déjà te mettre dans la posture de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interpellé et ce en concrétisant la foi. Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum as-siyam, il vous a été prescrit de jeûner. Qu'est-ce que c'est que le jeûne? Est-ce que c'est s'abstenir de boire, de manger et de s'accoupler avec sa femme? Est-ce que c'est ça le jeûne dans son essence? Non. Nous avons dit que le jeûne dans son essence, c'est vivre la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et se maintenir dans cette situation jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous inscrive parmi les pieux. Parce que plusieurs textes de la révélation montrent clairement que lorsqu'une personne se met dans une posture et se maintient dans cette posture, Allah subhanahu wa ta'ala l'inscrit parmi les adeptes de cette posture. C'est pour ça, par exemple, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que le prophète sallam dit « وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقْ وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ إِنَّ اللَّهِ صِدِّيقًا » Il se peut qu'un homme soit véridique, dise la vérité et s'efforce à ne dire que la vérité jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'inscrive parmi les véridiques. D'ailleurs, regardez, quand on jeûne, on doit s'abstenir de boire, de manger, de se, de s'accoupler. Alors qu'en réalité, toutes ces choses-là sont des sites à la base, en dehors du jeûne. D'ailleurs, si Allah subhanahu wa ta'ala, pendant qu'on jeûne, nous rend des choses qui nous sont à la base licites et utiles. Manger est utile, non? Boire est utile, non? Jouir de sa femme est utile. Si pendant qu'on jeûne, Allah nous rend cela, toutes ces choses qui sont à la base nous sont licites, illicites. Pendant le jeûne, qu'en est-il des choses qui sont illicites à la base? Voyez l'indication qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous lance à travers le jeûne. C'est que, est-ce que les péchés nous sont utiles? Hein? Non. Mais pendant qu'on jeûne, Allah nous a interdit ce qui nous est utile pour nous faire comprendre l'importance de l'abandon du péché qui nous est inutile. C'est pour ça que dans un hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, « Man lam yada qawla al-zuri wal amala bihi wal jahla » فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. Quiconque ne délaisse la mauvaise parole, la parole du faux, والعمل به, l'œuvre avec la parole du faux. Il y a certains musulmans, alhamdoulilah, ils ne mentent pas. Et c'est pour ça à ne pas mentir. Et non, aucune gêne à écouter la vérité et à écouter le mensonge et à œuvrer avec le mensonge. C'est un problème islamique. À prêter oreille aux propos calomnieux et même à se baser sur ces propos calomnieux pour sortir des jugements. C'est travailler avec la parole du faux. Même si on n'a pas dit la parole du faux. Donc le prophète dit, quiconque ne délaisse la parole du faux, l'œuvre basée sur la parole du faux. Ensuite, il a cité la mère des mots, l'ignorance. Les actes qui relèvent de l'ignorance, du paganisme. Allah a nécessairement besoin que ce dernier ne délaisse sa boisson et sa nourriture. Parce qu'il n'a pas compris pourquoi Allah l'a demandé de jeûner. S'il jeûne et ment, s'il jeûne et travaille avec le mensonge, s'il jeûne sans sortir de l'ignorance, sans étudier, sans chercher à comprendre qui est Allah, à adorer Allah comme il se doit, ça veut dire que c'est là une personne qui n'a rien compris dans le jeûne. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a évidemment besoin du jeûne de ce dernier. Vous voyez pourquoi il est important de comprendre les actes d'adoration. Je vais même encore vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que, d'abord, avant de dire cela, quand on délaisse tous les péchés et abandonne la nourriture qui à la base était licite pour Allah, qu'est-ce que cela veut dire? Que veut dire ce comportement? Qu'est-ce que ça traduit? Hein? La piété. C'est ça même la piété. Taqwa Allah, an ta'mala bi ta'ati Allah 'ala nurin min Allah, tarju thawab Allah. Wa an tatruka ma'siyat Allah 'ala nurin min Allah, khifat 'adhab Allah. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est obéir à Allah subhanahu wa ta'ala à la lumière des textes. En espérant les récompenses promises par Allah, c'est délaisser le péché à la lumière des textes, en ayant peur du châtiment. Or, c'est en réalité ce que Allah demande aux jeûneurs, à travers le jeûne. Donc, en réalité, le jeûne, c'est craindre Allah subhanahu wa ta'ala et se maintenir dans cette posture jusqu'à ce qu'Allah nous inscrive parmi les pieux. La'allakum tattaqoun, jusqu'à ce qu'on atteigne la piété véritable, qui est pérenne, constante. Taïf, quand on n'a pas compris ce que c'est que le jeûne à travers les textes, on ne peut pas atteindre cette piété, la piété voulue ici. Quand on n'a pas commencé par se mettre dans cette posture et de se maintenir dans cette posture. Je vais même pousser plus loin en disant que, est-ce que vous savez que normalement, celui qui a compris ce que c'est que le jeûne ne passe pas le temps quand il jeûne à ne rien faire. À faire ce qui ne lui est pas utile. Je ne parle pas de l'interdiction. Yahri, si Allah nous a interdit ce qui nous est utile, ça veut dire que quoi, on a bien compris. On doit s'abstenir de ce qui ne nous est pas utile, même si c'est licite. Parce que ce qui est licite et utile, Allah nous l'a interdit. C'est une ishara, c'est une indication pour comprendre ce que c'est que le jeûne. Pour qu'on puisse atteindre un degré d'élévation d'âme, qu'on s'habitue à vivre en consacrant notre vie à ce qui nous est utile auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que, à la fin du jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit zakat al-fitr. Et qu'est-ce qu'Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu dit? Farad Allah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alayna. Non? Farad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakat al-fitr. تلغطا للصائم مماذا؟ من اللغو والرفث. الله سبحانه وتعالى رانجي اوبليغاتوا pour les jeûneurs, la zakat al-fitr, comme étant une purification contre les futilités. Allahou, c'est quoi? Ce n'est pas le péché. Ce n'est pas le péché. C'est ce qui est inutile. Parce que donc, ça veut dire que le jeûneur qui fait ce qui est utile à la base n'avait pas compris ce que c'est que le jeûne comme il se doit. C'est pour ça qu'à la fin, ils sont dans Zakat al-Fitr pour se purifier de ces futilités-là. On a compris? Donc, c'est ça le jeûne. Et comment est-ce qu'on peut comprendre ce que c'est que le jeûne de cette manière si on n'étudie pas, si on n'apprend pas, si on ne médite pas sur les textes de la révélation? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse l'aide du nombre de ceux qui est pour la bonne parole et la mettre en pratique. Qala wa tahujj al-bayt. Tu te dois d'accomplir le hajj. Et nous savons tous que le hajj c'est le cinquième pilier de l'islam. Et que ce pilier n'est obligatoire et non ne concerne, parce que certaines personnes font souvent l'erreur de dire que ça ne concerne que ceux qui ont les moyens. Ça concerne tous les musulmans, mais ce n'est obligatoire que sur ceux qui ont les moyens. Ça veut dire que s'il y a un musulman qui n'a pas les moyens, mais qui s'efforce à faire le hajj, est-ce qu'il a commis le péché? Non, il a accompli son hajj. C'est sûr, même s'il marche à pied pour aller à la Mecque, il aura accompli son cinquième pilier. Mais ce n'est pas obligatoire tant qu'il n'a pas les moyens. Et ça devient obligatoire à celui qui a les moyens. Et le Hajj est une grande école de la Tawhid, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui permet aux croyants de comprendre le message de l'islam, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et la communion qui devrait exister entre les musulmans. C'est des leçons qu'on dit à travers le hajj. Et quiconque parfait son pèlerinage n'a d'autre récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que le paradis. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. Le hajj bien accompli n'a d'autres récompenses que le paradis. Mais la précision que nous tenons à faire ici, qui est importante, c'est que par rapport aux femmes, parmi les choses qui relèvent, qui entrent dans les conditions qui doivent être remplies, c'est la condition du mahram, le tuteur pour la femme qui ne peut se rendre à la Mecque qu'en voyageant. Parce que les habitants de la Mecque parmi les femmes peuvent faire le hajj. Mais une femme qui ne peut se rendre à la Mecque, qui ne peut se retrouver à la Mecque à travers le voyage, ne se doit de se rendre à la Mecque qu'avec un tuteur. C'est une condition. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit à la femme qui croit en Allah et au jour du jugement dernier de voyager sans mahram. Comment donc rechercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala par le biais de la désobéissance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Donc il n'est pas permis à une femme qui n'a pas de tuteur de voyager pour aller faire le hajj jusqu'à ce qu'elle trouve le tuteur. Et il faut savoir, parce que c'est ça la vérité, et les gens se doivent de connaître la vérité, que le gouvernement saoudien ne permet pas à une femme à la base de voyager sans mahram. Mais posez-vous la question de savoir comment est-ce que nos femmes voyagent sans mahram. Et vous allez comprendre la subtilité de la ruse du diable. Pour que nos femmes qui n'ont pas de mahram se rendent en Arabie Saoudite, les encadreurs les attribuent des mahram. Parmi les hommes qui se sont inscrits auprès d'eux, elles les présentent au gouvernement saoudien comme étant leur mahram. Ça veut dire qu'ils commencent leur hajj sur la base du faux. Vous avez compris le diable? Ou le diable amène les gens? Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne leur a pas rendu le hajj obligatoire si la condition n'est pas remplie. C'est pour ça qu'il s'est fait qu'une femme, qu'une femme qui a les moyens de payer un siège dans l'avion et de prendre soin d'elle pendant le hajj, délaisse le hajj et entre au paradis parce qu'elle a délaissé le hajj, et qu'une femme qui accomplit le hajj sans mahram soit châtiée par Allah subhanahu wa ta'ala malgré le fait qu'elle ait accompli le hajj. Vous avez compris ce que j'ai dit? Je pèse bien mon mot. J'ai dit qu'une femme qui a les moyens de se rendre à la Mecque, de payer un siège dans l'avion et de prendre soin d'elle, peut laisser le hajj pour Allah, parce que la condition n'est pas remplie et Allah lui accorde, et Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde la récompense du hajj. Et même meilleur, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. Quiconque délaisse une chose pour Allah, une femme qui a les moyens d'acheter un siège, de payer le siège, de prendre soin d'elle à la Mecque, et qui délaisse ce voyage parce que les conditions ne sont pas remplies, parce qu'elle n'a pas de tuteur, pourquoi est-ce qu'elle a laissé? C'est pour Allah, c'est par obéissance à Allah. Et c'est fait que pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde ce qui est meilleur que le hajj. Et c'est fait qu'une femme qui accomplit le pèlerinage, sa mahram, soit châtiée par Allah subhanahu wa ta'ala, soit parce qu'en réalité elle a accompli ce hajj par ostentation. Parce que c'est lui qui recherche l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, se soumet aux règles établies par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est à travers la soumission aux règles établies par Allah qu'on accédera à la demande d'Allah. Et il ne fait aucun doute que parfois l'ostentation est ce qui pousse les gens à ne pas respecter les règles établies par Allah. Parce qu'on veut se faire appeler par Hajar et non parce qu'on veut accéder à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour cela, on peut être châtié pour avoir fait le Hajj. Voilà la précision que je voulais faire par rapport à cela et attirer l'attention sur l'importance de la concrétisation du tawhid avant, pendant et après le hajj. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait proclamé pendant le grand rassemblement, le jour du grand hajj, qu'il s'était désavoué de tous les associateurs ainsi que son noble messager. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. Et proclamation émanant d'Allah ainsi que de son prophète, qu'Allah et son prophète se désavouent. Et proclamation émanant d'Allah, qu'Allah se désavoue ainsi que son prophète des associateurs. Donc il faut se rassurer qu'on n'est pas associateur quand on se rend à la Mecque. Il faut se rassurer pendant son hajj qu'on ne tombe pas dans l'association. Et il faut se rassurer après le hajj qu'on ne tombe pas dans l'association pour bénéficier des mérites promis par Allah subhanahu wa ta'ala à ceux qui accomplissent le hajj. Voilà, en résumé, ce qu'on a pu dire par rapport à ces cinq piliers. Au cinq piliers de l'islam cité par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à l'entame de la réponse donné à Mu'az. Ensuite, ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير. Maintenant, ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a indiqué avant, c'était le bien. Parce que l'islam, c'est le bien. Nous avons déjà cité la preuve ici, le hadith de Khuzaifa. يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فجئتنا بهذا الخير. Donc l'islam c'est le bien et c'est le bien absolu. Donc, et on se rend compte que les choses précédemment citées sont les piliers de l'islam. C'est même ça l'islam. Donc le prophète a orienté vers le bien. Ensuite il dit à Mu'az, ala adunuka ala abwabi al-khairi. Maintenant que tu as compris ce que c'est que le bien, ne veux-je pas t'orienter vers les portes du bien, vers les portes de ces biens. Ces biens-là ont, ce bien-là a des des bons. Ne pense pas t'orienter vers les portes de ceux de ces biens. Voilà. Non. Ensuite, le prophète a dit, Asoumou Junna. Asoumou Junna. Le jeûne, c'est un bouclier. Yahri, si tu veux être préservé, c'est un bouclier contre tout. Contre le diable, contre les malheurs, contre tout. Asoumou Junna. Nakira fi siyaqil al-isbat wa yufidu al-umum. C'est un bouclier contre tout. Si tu as des problèmes jeunes, mon frère, attache-toi aux jeunes. Ne rassure pas que ce sont des jeunes légiférés par Allah. On ne te dit pas d'aller inventer un autre jeune. Ne rassure-toi que ce sont des jeunes légiférés par Allah. Jeûne le lundi, jeudi, jeûne le jour de Ashura. Jeûne le jeûne légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala. Jeûne le jeûne de Daoud si tu peux. Tu seras protégé. As-sawmu junna. Et tu seras protégé. Naam, du grand mal qui est l'enfer. Thumma qala was-sadaqatu tutfi'u al-khati'ah. Was-sadaqatu tutfi'u al-khati'ah kama yutfi'u al-ma'u an-nar. Il a sadaqa. Il faut l'erreur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'eau éteint le feu. Quand l'eau éteint le feu, non, le feu arrête de brûler directement. Il se refroidit. C'est ça la différence. La poussière éteint aussi le feu. Mais quand la poussière éteint le feu ne s'apaise pas, la brûlure. Non, ça chauffe toujours. Donc ça peut toujours brûler. Alors que quand le feu éteint l'eau, quand l'eau éteint le feu, ça ne chauffe plus. Ça s'arrête de chauffer. Ça veut dire que la sadaqa efface l'erreur et empêche que cette erreur nous nuise auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous devons de multiplier la sadaqa. C'est là une porte parmi les portes du bien. Nous allons essayer d'aller un peu plus vite. Qala wa salatu rajuli fi jawfi al-layli, ainsi que la prière de l'homme pendant la nuit, en plein milieu de la nuit. Ensuite il a récité l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala fait aux nobles croyants qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Tatajafa junubuhum anil darajih. Tatajafa junubuhum anil darajih. C'est-à-dire qu'ils décollent leur côté du lit pour aller prier, pour aller soumettre leur être à Allah subhanahu wa ta'ala pendant que les autres êtres dorment. Et ici, je vais citer quelque chose qui, d'après moi, est important. Ce que nous avons tous atteint ce degré pendant le mois béni de Ramadan, vous voyez que en réalité, tout ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a indiqué ici comme étant les portes du bien pendant le mois béni de Ramadan, nous étions attachés à ces pratiques-là. Mais le problème, c'est dans notre attitude après avoir atteint ce degré. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas prié la nuit pendant les nuits du mois béni de Ramadan? Non? Ça y est. Allahu Akbar. Non, c'est pour ça que j'ai dit Allahu Akbar. Radd al-ilm ila Allah. Le fait a peur qu'il y ait parmi nous des personnes qui n'ont pas prié la nuit pendant le Ramadan. Non, moi j'ai quand même de route nous allons aux frères qui sont ici, mon frère. Quelqu'un qui vient s'asseoir du matin jusqu'au soir. Je ne peux pas penser qu'il n'a pas prié la nuit pendant le mois béni de Ramadan. Anna Osenovan. Voilà, tout le hal. Je sais que quand le frère dit ça, ce n'était pas parce qu'il faisait le souroban. C'était peut-être une blague pour détendre l'atmosphère. Oui. Pendant le mois béni de Ramadan, nous avons tous prié la nuit. Est-ce que vous savez que prier la nuit, s'habituer à la prière nocturne et abandonner la prière nocturne est une attitude contre laquelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde. Et est-ce que vous savez que c'est une attitude contraire au principe de l'islam? كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أهبته هكذا قالت عائشة رضي الله عنها lorsque le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم s'est donné à une acte d'adoration il la rendait pérenne il le rendait pérenne lorsqu'il s'est donné à une acte d'adoration à une bonne heure il la rendait pérenne. Pourquoi? Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha. Les meilleurs œuvres auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sont celles qui sont pérennes. C'est pour ça qu'un jour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait une recommandation importante à Abdullah ibn Amr en mettant en garde contre une personne. Et je crains que nous soyons tous dans la posture de celui contre qui le prophète a mis en garde. Alors que nous devons plutôt accepter la recommandation du prophète et sa mise en garde. Mais je crains qu'on soit tous de ceux contre qui le prophète a mis en garde. Qala ya Abdallah ibn Amr. Ya Abdallah ibn Amr. La takun mithla fulani. Kana yaqum al-layl thumma taraka al-qiyam. Oh Abdallah ibn Amr, ne sois pas comme un tel. Il se réveillait pour accomplir les prières nocturnes. Après, il a abandonné ce comportement. C'est lui qui se réveillait pour prier pendant le mois de nuit de Ramadan, qui a bénéficié de ce bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui abandonne, en réalité n'a pas reconnu le bienfait d'Allah. Parce que le simple fait que tu aies la force de te lever pour prier, tu lèves et prie, c'est un bienfait d'Allah. Et la reconnaissance voudrait que tu conserves ce bienfait. C'est comme ça que tu te montres reconnaissant vis-à-vis d'Allah. Il t'a permis, il y a dit pendant le Ramadan, comme le frère disait, il y a des personnes qui n'ont pas pu prier, qui n'ont pas pu s'habituer à prier. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala t'a facilité la prière nocturne et après tu as abandonné la prière nocturne? Comme s'il y avait un autre Seigneur que tu adorais pendant le Ramadan et un autre que tu adores en dehors du Ramadan. C'est le même Seigneur. Et les actes qu'il aime pendant le Ramadan, il les aime en dehors du Ramadan. C'est pour ça qu'il faut comprendre le sens de la'allakum tattaqoun. Si vous atteignez la piété, vous allez vous maintenir dans cette piété. Et ça, c'est une porte parmi les portes du bien parmi les portes du bien que nous avons eu à cogner pendant le mois béni de Ramadan, nous ne devons plus l'abandonner. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Ensuite, il a dit Ala ukhbiruka bi ra'as al-amri wa amuduhi wa dhirwati sanamihi. قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ensuite a dit: Ne vais-je pas t'informer quelle est la tête de cette affaire? Quelle est la tête dans cette affaire? Ala ra'atul amri, yani dans cette affaire, le prophète a dit à quelle affaire? Non? À quelle affaire? Non? Il fait allusion à quelle affaire ici? Hein? Au bien? Non? Ala ukhbiru kabira'atul amri. Il fait allusion à quelle affaire? L'affaire apportée par Moïse dans sa question. tout ce que le prophète Mohammed sallam dit tourner autour de l'affaire apportée par moi dans la question. Le questionnement concernant les choses permettant d'accéder au paradis et d'échapper au feu de l'enfer. C'est ça l'affaire auquel le prophète fait allusion. Il lui dit, Ra'asul Amri al-Islam. Il faut comprendre que la base de l'affaire que tu demandes là, c'est l'islam. La base de l'affaire, de ta question là, du questionnement que tu as apporté là, c'est l'islam. Qu'est-ce que ça veut dire, frère? Ra'asul Amri al-Islam. Ça veut dire que la base sur laquelle devrait reposer tout ce que nous entreprenons, c'est l'islam. Parce qu'en réalité, tout ce que l'on entreprend, à la base, c'est pour accéder au bonheur et échapper au malheur. Or, le bonheur absolu, c'est le paradis, et le malheur absolu, c'est l'enfer. Donc, en réalité, tout ce que nous entreprenons, nous devons de nous rassurer que cela nous permettra d'accéder au paradis et d'être éloigné au feu de l'enfer. Et cela ne peut se faire que lorsque cette chose est basée sur l'islam. Ra'atul Amri al-Islam. Vous avez maintenant compris? Ra'atul Amri al-Islam. Ça veut dire que quand tu envoies ton enfant faire le commerce, quand tu envoies ton enfant faire le commerce, cela doit se baser sur cette base-là, sur l'islam. Son commerce doit reposer sur l'islam. Quand tu entreprends un business, ce business doit se baser sur l'islam. Parce qu'à partir du moment où ça perd ses fondements, ça devient un problème. Ça risque d'être une chose qui pourra t'empêcher d'accéder au paradis et t'amener en enfer. C'est pour ça que la base de toutes choses que nous entreprenons doit être l'islam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que nous entreprenons, nous devons de nous rassurer que cette chose-là s'accorde avec les principes de l'islam. Que cette chose-là n'enfreint pas les règles de l'islam. Hazamana Rasul Amri al-Islam. D'ailleurs, maintenant si tu as compris cela, sache que vous amour du roux. La branche solide sur laquelle repose cette affaire, qui est l'islam. Non, c'est la prière. Pour amour du Salah. La chose qui te permettra d'agir comme ça, c'est la prière. Écoutez bien. La chose qui te permettra, écoutez bien ce que je suis en train de dire. La chose qui te permettra, non, de reposer tout ce que tu entreprends sur l'islam, c'est l'accomplissement de la prière comme il se doit, parce que la prière mettra entre toi la barrière entre le péché et les turpitudes. Ce qui fait que dans tout ce que tu entreprendras, tu éviteras les péchés et les turpitudes. Vous avez compris, Oumana, ou Amoudouhou, Aftala, ou Zirouatu Sanamihi, Al-Jihad. Et une autre branche solide de cette affaire, c'est quoi? C'est Al-Jihad. Parce qu'en réalité, le diable et son armée ne pourront pas te lever en paix. Et ne vont pas te permettre d'établir tout ce que tu entreprends sur la base de l'islam. Ne vont pas te permettre de prier comme il se doit. Alors que faire? Il faudra que tu combattes sur le sentier d'Allah pour que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala soit établie. Afin que les gens font tout ce qu'ils feront sur la base de l'islam. Et afin que les gens prient. Pour qu'il y ait entre eux une barrière entre la prière, une barrière entre eux et les turpitudes et les péchés. D'où l'importance du jihad. Ça veut dire qu'en réalité, si on a compris quelle est la cause du jihad, pourquoi est-ce que les ennemis de l'islam, ou alors quand est-ce que les ennemis de l'islam sont combattus? Et quand est-ce qu'on parle de jihad, de guerre sainte? Est-ce que c'est à cause de la mécréance? Est-ce que c'est à cause de la mécréance? Répondez. Est-ce que quelqu'un est combattu à cause de la mécréance? Est-ce que quelqu'un est combattu parce qu'on veut l'obliger à suivre l'islam? Là, il craint rapidement. C'est donc pourquoi c'est parce qu'il empêche que le monde suive son cours normal. Suive que le monde fonctionne selon les principes établis par le Créateur des mondes. C'est pour cela qu'il est combattu. C'est pour ça que Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, il développe cela en disant que si ceux qui ont été combattus étaient combattus à cause de la mécréance, on n'allait pas accepter la jizya des mécréants. On n'allait pas accepter le paiement d'impôts des mécréants, des gens du livre. Pourquoi est-ce que lorsqu'ils acceptent de se soumettre aux règles établies par l'islam, de payer l'impôt, la jizya, ils sont les cibles et ne sont pas combattus. Parce qu'en réalité, quelqu'un qui accepte de se soumettre à ces principes ne combat pas l'islam. Et en réalité, les premiers mécréants qui ont vécu sous le commandement des musulmans acceptaient et préféraient vivre sous les lois de l'islam que les lois de la mécréance. Et lisez dans les livres d'histoire du monde, vous allez voir que les mécréants, c'était pays mécréant qui était conquis par les musulmans, les adeptes, ou alors les gens de ce pays, les mécréants de ce pays préféraient vivre après avoir goûté non, à la gouvernance islamique, préféraient être sous la gouvernance islamique que d'autres gouvernances. Si vous voyez un mécréant s'opposer aux lois de l'islam, c'est parce qu'il ignore ce que les lois de l'islam. Parce que personne ne maîtrise la création que le créateur. Et il n'y a pas de loi meilleure que la loi du créateur. Parce que ce sont des lois qui sont basées sur une science approfondie, une connaissance approfondie de la création, des créatures. Contrairement aux lois humaines. Contrairement aux lois humaines. C'est pour ça que le lynchage, non, comment est-ce qu'on appelle souvent, la loi, la justice populaire, les prisons ne peuvent pas résoudre le problème du vol. Ce n'est que la loi islamique. Quand quelqu'un vole, ce n'est pas un problème. Mais quand il vole, on ne doit pas le tuer. Non, ce n'est pas ça qui va gérer le vol. On l'arrête, on réunit les gens et on coupe sa main. C'est ça qui va gérer le vol. C'est pour ça que dans le pays où c'est pour ça que le pays où il y a moins de vols au monde, c'est le pays où on a pris ces lois. C'est une preuve évidente, l'Arabie Saoudite. C'est le seul pays où tu peux compter les millions en plein air, sans être inquiété. C'est le seul pays où les distributeurs sont même dans les quartiers et ne sont pas surveillés par les policiers. Même dans les quartiers, même en pleine nuit. Parce que la loi de l'islam est appliquée dans ces pays. C'est le pays où il y a moins de corruption. C'est le pays où il y a moins de vagabondage. C'est le pays où il y a moins de fornication. Pourquoi? Parce qu'ils appliquent la loi islamique. Et parce que la loi de l'islam, c'est la solution. C'est le pays qui a le moins de problèmes économiques. Parce que leur économie est basée sur l'économie islamique. Et même les mécréants ont compris et ont commencé à étudier le système islamique. Ils doivent étudier tous les systèmes islamiques, les lois islamiques, parce que ce sont les lois islamiques qui sont la solution aux problèmes du monde entier. Yahri, l'islam, c'est la seule religion qui, de manière claire et explicite, ne fait pas de différence entre le blanc et le noir, le riche et le pauvre. قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Le plus noble auprès de vous, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le plus craignant, même si c'est un noir. Il dépasse le blanc qui ne craint pas Allah. Il dépasse l'arabe qui ne craint pas Allah. Il dépasse un membre de la famille du prophète qui ne craint pas Allah. À cause de ça, de sa crainte. L'islam est la seule religion qui a établi l'égalité entre les hommes sur la base qui rend tout le monde, au même pied d'égalité. قال الله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بابا أربابا من دون الله دي هو جان جيل venez qu'on se soumette tous à une expression qui nous ramène au pied au même pied d'égalité. C'est quoi cette expression Allah na'abuda illallah? Qu'on adore tout ce que le Créateur, le digne d'être adoré. Allah, le seul qui mérite d'être adoré. Voilà, nous shrikabihi, shay'a, et qu'on ne lui attribue aucun associé. Voilà, yestakhidhu ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Ya akhi, si nous sommes tous les créatures, pourquoi d'autres doivent être au-dessus des autres? Pourquoi d'autres doivent adorer les autres? Pourquoi d'autres doivent passer par les autres pour atteindre Allah si ce n'est pas les messagers? Alors, pour connaître cette égalité, et c'est ça la vraie égalité qui en réalité est la justice que réclament les gens, mais ne veulent pas passer par la voie de la justice établie par l'islam. Donc, il faut qu'on le dise clairement. Est-ce que la démocratie fait partie du système islamique? Est-ce que c'est l'islam? Mais est-ce qu'on n'impose pas la démocratie aux musulmans parce qu'ils ne sont pas forts? Hein? Si, allez, Sakadari, parce que je veux vous dire, j'ai dit que dans l'islam, il n'y a pas de faux. L'islam est clair et honnête. L'islam n'est pas hypocrite. Mais les mécréants sont hypocrites. Ils imposent leurs lois quand ils ont la force à ceux qui ne partagent pas ces lois. Ils refusent aux musulmans d'imposer leurs lois dans leur territoire quand ils ont la possibilité de l'imposer. Est-ce que c'est honnête? Les musulmans jouent franc-jeu, l'islam joue franc-jeu. Mais les mécréants ne jouent pas franc-jeu. Ils imposent la démocratie. Ils vont même dans un pays qui est basé sur les lois islamiques et veulent leur demander d'appliquer la démocratie qui est la mécréance pour les croyants. C'est ça le jihad. Le jihad, c'est s'élever et empêcher à ceux qui veulent que les musulmans abandonnent leur religion, de les empêcher d'abandonner, de les empêcher de faire cela, c'est-à-dire de pousser les musulmans à abandonner leur religion. C'est pour ça qu'on lutte. Ce n'est pas parce qu'on veut obliger les gens à devenir musulmans. C'est parce qu'on veut empêcher. Parce qu'on doit combattre ceux qui veulent nous empêcher d'adorer notre Seigneur. C'est pour ça que si la dawa passe sans problème, on ne fait plus appel aux armes. Si l'exposition de l'islam passe sans problème, on ne fait plus allusion, on ne fait plus appel aux armes. Même si les gens qui laissent passer le message de l'islam n'acceptent pas ce message, même s'ils ne se soumettent pas à ce message, mais à partir du moment où ils n'empêchent pas l'expansion du message de la paix, parce que l'islam c'est la paix, c'est la miséricorde. Et ce que veulent les musulmans, c'est que cette miséricorde soit répandue et que tout le monde bénéficie de cette miséricorde. Parce que leur prophète, c'est le prophète de la miséricorde. C'est celui qui a été envoyé comme miséricorde pour l'humanité tout entière. C'est ça le but de la jihad. Il faut bien comprendre. Donc, en aucun cas Boko Haram, mais les Boko Haram ne sont des Mujahidines. En aucun cas, ils ne sont des Mujahidines. Parce que quand on vit, par exemple au Cameroun, est-ce que les musulmans sont persécutés? Est-ce que quelqu'un les empêche d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala? S'ils se lèvent maintenant, commencent à tuer les gens, et tuent même les musulmans et prétendent qu'ils veulent établir la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que c'est vrai? C'est faux. À la lumière des textes du Coran et de la Sunna, ce n'est pas le jihad. C'est tout sauf la jihad. C'est répandre la corruption sur terre. C'est attirer des problèmes aux musulmans pour rien. Des problèmes qui n'existaient pas à la base. Donc il faut bien comprendre ce que c'est que l'islam. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذروة سنامه الجهاد ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ألا أخبرك بالله ذلك كله.